Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'acteur n'est pas un robot qui accomplit des gestes mécaniques. C'est vrai, il a pu arriver qu'on le remplace par une machine. L'artiste japonais Orisa Hirata, montant une adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov, avait substitué à l'actrice son exact avatar, troublante illusion. Mais ce n'est pas demain la veille, souhaitons-le, qu'on se passera sur scène des possibles qu'offre le corps vivant. Ce corps n'a pas toujours besoin de paroles pour exister pleinement. Mou, mimique, ondulation, saut dans l'air, marche à pas lent ou à pas vif. Immobilité sidérée, la palette d'expression du corps vivant de l'acteur est inouïe. Alors que France Culture consacre son antenne au thème de l'artiste et du robot, nous ouvrons le chapitre gestuel d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art physique, sportif, sensuel, charnel et parfois même érotique. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue. Bonjour Christian Heck.
Bonjour.
Nous sommes heureux d'accueillir dans une saison au théâtre le comédien le plus... Le comédien le plus joyeusement débridé, fantasque, déroutant, imprévisible de la comédie française, Vénérable Maison, dont vous êtes membre depuis 2008 et sociétaire depuis 2013. Vous interprétez actuellement au Théâtre du Vieux Colombier le rôle de Méphistophélès dans Faust, mis en scène par Valentine Losso et Raphaël Navarro. Un spectacle de magie nouvelle dans lequel vous imposez une fois de plus, une fois encore, cette gestuelle qui vous est si personnelle, mais qui rappelle les grandes figures du cinéma muet qu'étaient Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Et aussi les facéties de quelqu'un qui était absolument prodigieux, qui s'appelait Jerry Lewis. D'où vous vient, Christian Heck, cette faculté, cette capacité à imposer votre corps comme une sorte de langage à part entière?
Alors ça, c'est une question assez complexe, parce que ça nécessite de s'analyser soi-même. Je crois que jeune, j'ai toujours été plus attiré par le dessin, l'image et le mouvement, plutôt que par le texte ou la lecture. Donc je dois avouer que je suis un mauvais lecteur, mais je suis un dévoreur de bandes dessinées, par exemple. Et je crois que la courbe, le mouvement, le trait, la ligne, le dynamorythme m'a toujours fasciné, plus que la littérature.
Qu'est-ce que vous appelez le dynamorythme ?
Alors, le dynamorythme, c'est un terme que j'ai inventé et qui parle de la rythmique interne d'un personnage, d'un caractère, voire même d'une chose. Par exemple, les œufs sur le plat qui sont en train de cuire, ils font des petites bulles et ils frétillent. Et ils ont leur propre dynamorythme.
Est-ce que vous diriez de votre corps, si vous deviez le décrire, Christian Heck, qu'il est le même au naturel? Là, vous êtes assis en face de moi, bras croisés, sagement posés devant le micro bleu qui vous fait face, que lorsqu'il est sur une scène de théâtre. Est-ce que c'est le même corps ou est-ce que c'est un autre corps, tout à coup, qui apparaît?
C'est un autre corps, je pense. Le
corps. Ça reste vous quand même, mais.
Ça reste moi, mais le contrôle corporel, je ne fais pas attention dans la vie de comment me mouvoir. En tout cas, je n'y pense pas. Alors que sur scène, j'y pense énormément. Ça commence déjà par le caractère du personnage qui influe une manière de bouger, le costume qui a été choisi, les partenaires qui vous entourent. Tout ça va influencer une manière de bouger.
Mais comment vous vous préparez? Par exemple, quand vous savez que vous allez avoir à interpréter le rôle de Faust, comment est-ce que vous préparez les mouvements que va opérer votre corps, Christian Heck, alors que les répétitions n'ont peut-être pas encore démarré?
Par exemple, en ce qui concerne le Faust, comme j'interprète Méphisto, là, on se trouve devant un personnage dont on n'a pas vraiment de comparaison. On peut tout imaginer, parce que comme jouer Dieu ou jouer le diable, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut choisir ce qu'on veut. Il faut juste trouver des mouvements qui ne sont pas habituels. Il faut juste essayer d'étonner par une manière de bouger qui n'est pas conventionnelle.
Alors c'est quoi le conventionnel pour vous? Avant d'entrer dans le pas conventionnel, qu'est-ce qui serait le conventionnel, Christian Haeck?
Qu'est-ce que c'est que le conventionnel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, les gens qui marchent dans la rue, il y en a certains qui sont conventionnels. Peu, il y en a peu, hein, mais il y en a quelques-uns. D'ailleurs, rien qu'à s'asseoir à une terrasse de café et regarder les gens passer, on peut déjà se raconter un millier d'histoires sur leur manière de bouger, leur manière de marcher. Vous savez, il y a des gens qui sont très doués pour imiter la voix d'un tel. Les imitateurs prennent un malin plaisir à imiter la voix d'un tel ou un tel. Moi, j'ai plus de plaisir à imiter une démarche. Maintenant, je ne réponds pas vraiment à votre question.
Non, mais maintenant que vous me dites ça, Christian Haeck, ça me fait penser à une chose qui est que souvent les imitateurs qui imitent avec la voix se mettent à ressembler physiquement aux personnes qu'ils imitent.
Tout à fait. C'est juste que comme leur outil favori ou le mieux maîtrisé va être la voix, c'est la voix qui va après entraîner le corps. Moi, je travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire comme je suis plus intéressé par la corporalité, je vais commencer par la corporalité. Et si tout se passe bien, si ma corporalité est correcte, la voix va suivre.
On va reparler de votre voix, on va essayer d'en reparler, parce qu'elle est loin d'être inintéressante, Christian Haeck. Mais je voudrais aussi vous faire réagir sur cette perception que nous avons comme spectateurs quand vous êtes, vous, sur une scène de théâtre. C'est qu'on a le sentiment que votre corps, parfois, il fait presque sécession. Il se dissocie littéralement d'un vous-même, d'un autre vous-même, qu'il devient lui un autre vous-même. Vous pouvez avoir, vous, cette impression d'un corps qui fait sécession et qui se met à exister en tant qu'objet totalement autonome.
Chaque partie du corps peut raconter une histoire différente. Donc, on peut mettre le coloré. Par exemple, si on fait quelqu'un détriqué, on va scléroser une partie du corps. Il y a un outil qui est très intéressant pour jouer avec ce phénomène, qui est tout simplement le mime. Le mime apprend à dissocier. Le travail de dissociation est un travail essentiel, c'est-à-dire de pouvoir bouger une partie du corps sans influencer l'autre partie. Donc on peut déjà colorer un personnage en le partageant en plusieurs parties. On peut avoir un tronc très fixe et des jambes très mobiles, ou inversement. Où tout fixe et juste la tête qui est mobile. Et avec ça, on peut déjà raconter des histoires.
Et oui, parce qu'il y a des choses que vous rendez pour le coup invisibles, ou en tout cas moins visibles,
en
insistant sur d'autres.
En tout cas, c'est une histoire qui va rajouter à ce que raconte le texte, puisque je suis bougeur, mais je suis de mon métier comédien. Donc je vais me servir de ma corporalité pour rajouter une couche. Vous savez, quand on fait du théâtre, on essaye de dire autre chose que ce qui est écrit. Sinon, ce serait absolument inintéressant. Il suffirait alors juste de lire la pièce chez soi, et voilà. Quand on va au théâtre, on espère, enfin, moi en tant que spectateur, j'espère avoir une autre lecture que l'écrit. Et donc, pour ça, il y a plusieurs procédés. Il y a ou bien, dans l'intention du jeu, on va jouer autre chose que ce qui est écrit, j'adore ça. Dans la vie de tous les jours, c'est très facile. Quelqu'un peut vous dire oui en pensant non. Et on ajoute à ça une corporalité qui va encore ajouter une histoire en plus et donner une épaisseur à l'histoire racontée, donner une pluralité d'intentions.
Créer un langage supplémentaire.
Exactement.
Nous allons écouter, je l'espère, plusieurs voix dans cette émission, Christian Haeck, et j'aimerais bien démarrer par celle d'un pédagogue dont vous avez très certainement entendu parler. Dans ses cours ont été formés bien des comédiens de théâtre. Ce pédagogue, c'est Jacques Lecoq.
En France, la notion du corps est très séparable de la notion de l'esprit. On en fait deux choses complètement antinomiques et presque contradictoires et presque en opposition, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, à l'école, on commence par le corps, parce que évidemment, le corps sait des choses que la tête ne sait pas encore. Et le premier engagement dans l'action du jeu théâtral est d'abord une action physique. Je suis un petit peu allergique à la recherche de son moi. Faut-il se connaître soi-même avant de connaître les autres? Pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir le regard de la curiosité ouvert vers le monde et ouvert dans le monde de la vie quotidienne, mais aussi dans son abstraction. Quand on est en face de la mer, on est en face d'une horizontale. À la montagne, on est tenté par les verticales. Il y a déjà une structure que nous offre la nature autour de nous, qui est quand même notre premier langage. On se réverbère dedans. pour moi, le mime est un acte d'un enfant qui mime le monde pour le reconnaître, et l'acteur, c'est un enfant qui continue et qui va prolonger cette faculté qu'a l'être humain, par son corps, de connaître les choses en les mimant. Donc, ce n'est pas ni la pantomime, ni la figuration mimée, ni l'imitation de la forme, c'est le mimisme profond. Donc, c'est presque une mimodynamique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la mimodynamique ? C'est de mimer, non pas les formes, mais de mimer l'espace, les rythmes et les forces qui sont en jeu. Pour moi, on a toujours, il faut rester toujours fidèle à la notion du jeu. On joue, et par plaisir. Moi, je pense que l'acteur, il doit être heureux sur scène, il doit être content de jouer, c'est son plaisir. Mais quand il commence à trop rentrer dans les concepts, dans les symbolismes, dans des philosophies cérébrales, et quand il pense, c'est pauvre à côté du jeu même de l'acteur. C'est pour ça que l'acteur, les grands acteurs, ils sont disponibles à l'événement.
Voilà beaucoup de choses dans ce que dit Jacques Lecoq, Christian Heck, dont celle-ci qui est intéressante. Est-ce que la cérébralité est un obstacle à l'expressivité du corps ? Est-ce que vous le vivez comme ça ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Lecoq. On a une intelligence cachée, qui est l'intelligence du corps, qui n'est pas une intelligence consciente. Le corps est beaucoup plus malin qu'on ne pense. Je vais citer un exemple tout bête. Un bon batteur a le bon mouvement. S'il pense au rythme, il ne l'aura pas. S'il bouge le rythme, il sera juste. Donc il y a plein d'exemples pour montrer que le corps a raison.
Mais quelle est la différence entre l'intuition du geste juste, et puisque vous faites allusion au bon batteur, et quelque chose qui relèverait peut-être plus de l'automatisme, Christian Heck ?
C'est deux choses différentes. L'automatisme, c'est une chose qu'on a appris avec le quotidien. Maintenant, il y a quelque chose chez Jacques Lecoq aussi qui m'interpelle beaucoup, c'est quand il parle de l'enfance. L'enfance est notre matériau premier pour nous, comédiens, je ne vais pas limiter aux comédiens, sans doute plein de professions et beaucoup d'artistes, mais comme c'est mon métier, je peux en parler, je ne vais puiser uniquement dans mes souvenirs d'enfance et dans mes sensations d'enfance. C'est-à-dire le moment avant que je n'ai été pollué par quelque chose, par une éducation, par une contrainte, par un truc intellectuel. Donc cet instinct d'enfant est quelque chose de très précieux, est un outil de travail extrêmement précieux.
Ce qu'il dit aussi, Jacques Lecoq, c'est qu'on doit ne pas mimer les formes, mais mimer l'espace, les rythmes et les forces. Alors sur un plateau théâtre, j'imagine que tout ça prend un sens décuplé, Christian Heck.
Oui, bien sûr, parce qu'on ne s'inspire pas uniquement des personnes qu'on voit dans la rue. Le corps est imprégné aussi de la nature et de tout ce qui nous entoure. Des animaux, les animaux sont extrêmement riches. Je me souviens même c'était un des exemples de Jacques Lecoq d'ailleurs, qui faisait travailler ses élèves et qui commençait à dire à ses étudiants, voilà, vous allez essayer de me faire la mouche, et tout doucement, vous allez tirer la mouche vers une vieille dame qui fouille dans son sac. Et les mouvements fébriles des pattes qui se frottent les unes contre les autres finissent par devenir une vieille dame qui trifouille dans son sac. Les animaux sont très, 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 très inspirants.
Très inspirants, oui. On parlait de ça il y a peu de temps avec Xavier Gallet dans une émission consacrée à l'animalité de l'acteur. Lui, il disait que ça lui arrivait de penser à lui comme une girafe avant d'entrer sur un plateau. Oui. Vous pensez à vous en vous référant à un animal particulier ou ça varie selon les représentations ?
Ça varie, mais j'ai un... Plus les animaux sont loin de nous, plus ils m'intéressent. Par exemple, les insectes me plaisent énormément. Parce qu'ils bougent vraiment pas comme nous. Tout ce qui est aussi aquatique, d'où un petit peu le spectacle que j'ai fait avec Valérie Lessort, 20 milieux sous les mers, on s'est amusé à faire tous les animaux aquatiques. Comment ils évoluent dans l'eau, cette matière eau est aussi très intéressante pour le mouvement. Donc moi, je suis, les animaux qui m'influencent beaucoup pour bouger, ce sont les trucs très bizarres. comme les monocellulaires qu'on regarde au microscope. Vous savez, ces contractions bizarres et leurs petites flagelles qui s'agitent, et les insectes, leur coordination de pattes. Parfois, vous avez des insectes qui ont une myriade de pattes et on se demande comment ils font pour organiser tout ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous raconter une filofable qui est l'histoire du mille-pattes. C'est un jour un mille-pattes qui sort de son trou et qui rencontre une cigale. Et la cigale est extrêmement impressionnée par ce mille-pattes. Elle n'avait jamais vu. Et elle pose une question au mille-pattes. Il dit, mais dites donc, monsieur le mille-pattes, vous avez vraiment beaucoup de pattes. Il dit, oui, effectivement. Moi, j'ai mille-pattes. D'où mon nom, mille-pattes. Ah oui? Et alors, elle lui demande, mais alors, comment vous faites pour synchroniser toutes ces pattes? Vous devez penser à chacune des pattes, c'est très compliqué. Ah, le mille-pattes dit, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Et le soir, le mille-pattes retourne dans son trou. Et pendant la nuit, il pense, mais c'est vrai, finalement, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, comment je fais? Et il commence à réfléchir et à se demander consciemment comment je fais pour bouger toutes ces pattes. Et le lendemain, le mille-pattes a été incapable de sortir de son trou.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
On va poursuivre avec le mille-pattes Christian Heck, mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute une autre archive dans cette émission. Elle va vous rappeler quelque chose, puisqu'il y a dans Fausse une scène absolument extraordinaire où vous disparaissez dans le noir et tout ce que l'on voit, c'est ce que fabriquent vos mains, projetées en ombre chinoise et qui dessinent sur la paroi du théâtre bien plus que le lapin que d'habitude les mains parviennent à dessiner. Je vous propose d'écouter sur ces possibles de la main ce qu'en disait le mime Marceau.
Tac, deux, trois, des demi-cercles. Voilà. Et gardez la même consistance des doigts. Hein. Il ne faut pas que les doigts se replient, il faut qu'ils restent rigides. On va passer à la main de la fleur. Alors la fleur, c'est tendre et en même temps solide, la tige. Et toc pour l'accueillir, attention pour la prendre et la respirer.
J'ai une main étroite, mais presque une main... japonaise, dans le sens que c'est une main étroite. Moi, j'ai fait beaucoup de sabres dans ma vie et j'ai de très grandes forces dans une main qui a l'air petite, qui est étroite un peu, mais avec un pouce très recourbé, mais qui a une très grande force pour s'identifier avec l'invisible, c'est-à-dire manipulation des objets qui n'existent pas, manipulation... même si j'ai fait du sabre et des arts martiaux personnellement, mais beaucoup, je travaille avec la création du visible par l'invisible. Ça, les mains ont joué un très grand rôle, mais malgré tout, il faut bien le dire, on ne peut pas jouer dans l'art du mimodrame et du mime, on ne peut pas séparer les mains du corps. Si on joue seulement avec ses mains et les autres parties du corps ne suivent pas une... je parle pas un mouvement, mais ne respire pas en même temps dans une attitude, on est comme estropié. Donc, on peut isoler parfois les mains complètement, mais dans toute création, même si les mains jouent pour exprimer, le tronc joue, les jambes, même dans l'immobilité, sont placées, et on a l'impression d'une sculpture en mouvement, finalement. Quand vous regardez vraiment les grands sculpteurs comme Michel-Ange, Bourdelle, Despiaux, Rodin, bien entendu... le génie de leur création, c'est qu'ils étaient en même temps des mimes pour moi. Parce qu'à travers l'immobilité, ils créaient le mouvement.
Alors, Christian Heck, est-ce que vos jambes sont placées quand vous faites cette séquence d'ombre chinoise avec vos mains?
Oui. Ouais. Pour bouger, il faut d'abord avoir un excellent contact avec le sol. Il faut être sûr de ses pieds et de ses jambes.
De ses mille pieds, de ses mille pattes.
Et alors... quand on entend Marceau parler, effectivement, la main est un moyen d'expression très précieux. Vous savez, je ne sais pas qui a dessiné ça, mais tout le monde a déjà vu ça. C'est une représentation du cerveau avec l'importance de chaque organe, l'importance qu'on donne à chaque organe. Et la main prend une immense place dans le cerveau. En fait, on a une main extrêmement intelligente, très mobile, qu'on a développée au fil du temps, que l'homme a développée au fil du temps, et c'est un outil extrêmement précieux.
Qu'est-ce qui se joue pour vous dans l'immobilité? Parce que c'est quelque chose qui apparaît aussi dans votre façon d'être sur un plateau de théâtre. Et on voit aussi les déplacements parce qu'il y a par moments immobilité. Marceau, l'immobilité, c'est du mouvement.
C'est comme quand on fait de la musique. Pour que le mouvement soit beau, il faut qu'il parte de quelque part et il faut qu'il arrive de quelque part. Si on bouge tout le temps, c'est comme un brouillon où on a grivouillé partout. Il faut du blanc, il faut du noir, il faut du mouvement, il faut de l'arrêt. L'arrêt est aussi, pour un comédien, un moment d'écoute. Quand c'est son partenaire qui travaille, quand on écoute, quand on prend ce que donne le partenaire, c'est ça la qualité de l'immobilité. C'est comme le silence en musique. La qualité du silence, la qualité de l'immobilité.
Mais justement, est-ce que pour vous, le spectacle, c'est une forme de partition corporelle dans laquelle il y aurait des crescendo, des pauses, des accélérations, des suspens?
Bien sûr.
Est-ce que c'est ça le spectacle?
Bien sûr, bien sûr. On peut voir ça de manière macro ou micro. Un spectacle est réussi quand il a une belle musicalité, quand il mélange le drame, le rire, quand il y a des moments d'accélération, quand il y a des moments de forte et des moments de piano. Comme la musique, c'est pareil. Et le mouvement, c'est pareil. Donc avec son fameux dynamorythme qui est une partition qui fait qu'il y a des moments d'accélération, il y a des moments ronds, il y a des moments saccadés, il y a des angles, il y a des points, il y a des tocs, il y a des arrêts, il y a des traits de violon qui est un trait vibrant. C'est une des terminologies du mime. Voilà, il y a d'ailleurs toute une terminologie pour parler d'une qualité de mouvement.
Vous changez d'un soir sur l'autre? Vous improvisez d'un soir sur l'autre? Christian Reck?
Il y a toujours une part d'improvisation, mais elle est assez petite.
Parce qu'on a l'impression que parfois ça sort parce que ça doit sortir. Que vous allez faire une mood visage particulière, simplement parce que tout à coup... l'acteur vous a dit quelque chose ou l'actrice?
Oui, on n'est jamais exactement pareil. C'est ça qui fait que jouer, c'est passionnant parce qu'on ne fait jamais exactement la même chose. Mais c'est quand même assez réglé. On va dire que là où je risque plus d'être dans l'improvisation, c'est quand les mouvements sont extrêmement rapides, très saccadés, où là, c'est difficile de faire au millimètre près les mêmes chaque soir. Mais quand on a affaire à des arrêts ou à des mouvements lents, en général, c'est toujours les mêmes.
Mais je reviens à ce que disait Jacques Lecoq quand il disait les grands acteurs, parce que justement ils sont disponibles à l'événement, ne doivent pas trop penser. Moi je me dis, et je pense à vous sur une scène de théâtre, Christian Reck, que parce que vous êtes disponible à l'événement, vous faites événement en permanence.
Mais à partir du moment où on met le pied sur scène, c'est un événement. On doit raconter une histoire. Tout de suite, poser un pas sur une scène, c'est un événement. Comment on le pose? Comment on rentre? Les premières entrées de personnages, c'est toujours très important. Les acteurs, ils aiment soigner leur première entrée. Leur première entrée raconte déjà énormément. La première pose de pied. Effectivement, tout est événement. Même quand on est en mineur, quand c'est l'autre acteur qui a la parole, le mineur est aussi important que le majeur. C'est comme un contre-champ en musique. Si on n'a pas un bon mineur, on ne va pas mettre en valeur celui qui a la parole. C'est une mélodie et il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais se couper. La tension est toujours...
flux.
Le flux est toujours abondant, même si on ne bouge plus ou qu'on ne dit rien.
Mais justement, sachant votre capacité, ne serait-ce que avec le visage, vous avez un visage d'une plasticité incroyable en scène, où il suffit que vous leviez un sourcil pour que ça soit comme au cinéma, il y a un effet de zoom et on ne regarde que vous. Il suffit que vous ouvriez la bouche d'une certaine manière et c'est la même chose qui se passe. Du panoramique, on passe au zoom sur Christian Reck. Sachant que vous avez ça en vous qui est un potentiel incroyable, est-ce que vous êtes justement, pour rester en mineur, parfois par rapport à vos camarades de plateau, est-ce que vous êtes parfois obligé de vous freiner?
Oui.
D'appuyer sur la pédale douce, parce que vous pourriez faire le show à vous tout seul, du début jusqu'à la fin.
Oui, oui, non. Un plateau, ça se partage. Un focus, ça se partage. Je trouve ça très important. Et le respect de ses camarades sur scène, j'y tiens beaucoup. Et raconter une histoire ensemble, j'y tiens beaucoup. Et l'amitié et la tendresse que j'ai pour mes partenaires, j'y tiens beaucoup. Donc, je pense que dans ma jeunesse, je devais être beaucoup plus débridé que ça. Même déjà pour le fil à la patte, je crois que je devais, comme on dit dans le métier, j'en faisais vraiment des caisses.
Ah ben pour quiconque a vu ce spectacle, c'est inénarrable et inoubliable. Hein. Ça fait partie des spectacles cultes, hein, mise en scène de Jérôme Deschamps, la comédie française.
Oui, je me freine, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Et en plus, c'est pas plus mal, parce que c'est comme si je me nettoyais. Je n'utilise plus que ce que les choses vraiment efficaces et vraiment nécessaires. Donc, je me freine aussi pour mieux raconter l'histoire, pour qu'on écoute mieux l'autre, pour ne pas capter l'attention, ou la capter de manière convenable, sans prendre le focus dans sa totalité. Oui, j'y veille à ça. C'est important.
Alors, je vous le disais, Christian Hex, cette émission s'inscrit dans un week-end où France Culture a réfléchi à la notion d'artiste et robot. Il se trouve que là, le spectacle, c'est un spectacle de magie nouvelle, donc avec des effets qu'on a rarement vus sur des scènes de théâtre, ouais. Et notamment des hologrammes. On voit apparaître toute la troupe. Je spoil, tant pis, toute la troupe de la Comédie Française via l'hologramme. Vous êtes dans quelle position, vous, par rapport à ce qui se passe sur les scènes de théâtre? Je citais Oriza Hirata en ouverture d'émission. On peut voir maintenant des avatars sur des scènes de théâtre, des petits robots qui remplacent des comédiens. Vous êtes dans une sorte de vigilance par rapport à tout ça, ou vous accueillez ça avec beaucoup de bienveillance, d'intérêt et de curiosité, Christian?
Ah, ben alors.
Est-ce qu'on peut imaginer demain une scène de théâtre sans acteurs en chair et os, hein?
Vous m'embêtez un petit peu. Bon, alors plusieurs.
Je vous embête parce que la possibilité vous embête, la possibilité.
Non,
que
non,
ça
non,
vous
non, non, non. Parce que je pense qu'on n'y est pas. Et je reste un gros défenseur du théâtre fait main, du manuel. Même techniquement, je suis un vieux con qui va encore préférer les cintres manipulés à la main plutôt qu'un cintre électrique. Maintenant, tous les théâtres sont faits de manière... Parce que les poids à soulever, parce que la technique est telle. Mais je suis un vieux con de ce côté-là.
Ah ben alors, vous préférez les cintres manipulés à la main, mais vous ne voulez pas nous dire comment vous tenez debout, ou plutôt assis sur du vide.
Ah non,
et c'est là, pas, c'est pas manuel, pareil. J'imagine,
c'est pas,
l'artifice.
C'est pas pareil. Là, on
Christian
parle de
Hec.
La magie, et moi, je vous ai raconté comment fonctionnaient les cintres. C'est pas de la magie, ça, c'est de la technique. Pour revenir à votre question, de toute façon, je vous dirai pas comment je tiens.
Je sais, j'ai compris.
Vous pouvez essayer de me la reposer encore plusieurs fois. Mais pour répondre à votre question, qui est évidemment le cœur même du débat, ce qui était magnifique dans ce qu'on a pu aborder avec la magie nouvelle, c'est d'appréhender une nouvelle technique qui se marie très fort avec la corporalité, parce que je pense que les magiciens sont de très bons bougeurs et ont une intelligence du corps. Ils ont compris énormément de choses. Alors, je suis passionné par les techniques nouvelles. J'adore ça. Je suis un gamer
invétéré.
D'ailleurs, c'est un problème de chronophagie. Mais je reste sur les trucages et je reste sur... Oui, les trucs simples, je me redis, faits à la main, je les trouve plus efficaces, plus sensibles, et je n'ai pas encore vu où la machine pouvait nous dépasser. Je l'ai pas encore vu. Et pourtant, je me suis amusé à faire plein de choses, même de la motion capture, où n'est enregistré que des points de votre corps. J'ai adoré tout ça, mais je reste persuadé que la rencontre d'un mortel avec un autre mortel sera irremplaçable. Et j'adore les robots. J'adore comment ça bouge, un robot. J'adore m'inspirer de leur manière de bouger. J'adore le hip-hop où on bouge de manière robotique. Mais je préfère voir quelqu'un qui s'amuse à imiter un robot qu'un robot. Voilà. Donc c'est un mélange d'amour et de répulsion.
Merci beaucoup, Christian Hec.
Un soir de solitude avec exactitude, une heure au bord de l'eau.
Je rappelle, Christian Hec, les dates de ce Faust d'après Goethe, mis en scène par Valentine Nosso et Raphaël Navarro au Théâtre du Vieux Colombier. Le spectacle se joue jusqu'au 6 mai et tout de noir vêtu, vous y campez un Méphistophélès à la fois sinistre et totalement hilarant. Vous pouvez et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Dérange que je ne sache pas.
Inès Duperron, Pierre Faucillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Du cœur en altitude, dans l'immensité. C'est faux croire une fâcheuse habitude et j'ai peu d'attitude à la vouloir changer. Vers les lumières orange, les gens s'allaient, dérange que je ne sache pas. Thank you.